Salut les amis.
Salut Charlie.
C'est la fête aujourd'hui parce qu'on reçoit Henri Guibé.
Oh, génial.
Ouais, attendez, attendez, parce que le premier qui lui demande s'il est juif, je le fous dehors.
Ah, il préfère pas en parler.
Ah, oui.
Bah, non, mais non, c'est pas ça.
Non, 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 mais c'est normal. Hein, moi, je comprends. Si j'étais juif, je suis pas certain que vous voudriez en parler.
Mais de quoi vous parlez?
Bah, du coup, t'es peut-être juif.
Non, 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 je suis pas juif.
Oui, oui. Enfin, c'est pas grave. Tu peux rester comme dans l'équipe.
Je suis pas.
Non, mais vous délirez.
Mais on va pas virer Guillaume parce qu'il est juif.
Mais je suis pas juif.
Enfin, mais c'est pas la question. Enfin, il peut être juif, tamoul, roux, joueur de fléchette. On s'en fiche.
Mais alors, pourquoi Henri Guibé, il veut pas le dire?
Mais parce que tout le monde lui en parle.
Mais
enfin.
Ah, mais voilà, oui, c'est pas facile à gérer.
Mais surtout qu'il l'est pas.
Oui, ouais, ça, alors là.
Mais les gars, mais vous êtes cons ou quoi? C'est à cause de De Funès.
Quoi? De Funès, il est juif?
Alors ça,
mais ça c'est dingue.
Mais non, il est comédien.
Ouais, enfin, l'un n'empêche pas l'autre.
Mais dans Rabbi Jacob, enfin, la scène culte.
Ah, oui, avec le chewing-gum.
Bah non, l'autre, dans la voiture.
Ah, bah alors avec Henri Guibé.
Ah, oui, oui, Salomon, vous êtes juif, c'est ça?
Non, mais je rêve.
Bah quoi?
Non, mais ça fait 5 minutes que vous faites les débiles alors que vous voyez très bien de quoi je parle.
Charline vous demandait juste de pas faire allusion à cette scène.
Bien sûr, parce qu'il veut pas qu'on sache qu'il est juif.
Mais non, il n'est pas juif. Oh, c'est juste qu'il en a marre qu'on lui rappelle cette scène et puis c'est tout.
Mais pourquoi on lui aurait parlé de cette scène, nous, alors?
Je sais pas. Non, écoutez, pardon, mais faites comme si j'avais rien dit.
Non, là, mais en fait, que... voilà, j'ai compris, ça n'a rien à voir avec le contenu de la scène, c'est juste cette scène, et qu'il soit juif ou pas, ça change rien, ça. Ok, j'ai compris.
Voilà. Mazel tov.
Charline,
oui. Tu serais pas... C'est pas grave, hein, on te garde quand même.
Bah oui, normal, c'est moi le chef, alors...
Enfin, c'est toujours les juifs qui dirigent.
Mais je ne suis pas juive. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui suspend l'actualité à un croc de boucher. Et voici les deux invités qui seront nos complices. Le comédien Henri Guibé sera avec nous. C'est Salomon dans Rabbi Jacob.
Je connais très bien.
C'est aussi le pion dans...
Dans le pion.
Dans le pion.
Évidemment.
Entre autres innombrables rôles. Avec lui, on a parlé de cette première en France, la route solaire, la pose de cellules photoélectriques sur une portion d'autoroute. Et puis, on poursuivra avec Jean-Michel Jarre au moment où Donald Trump venait d'être élu et où on apprenait que Clo-Clo et Dalida étaient de retour en hologramme. Ça vous réjouit. Bonjour Alex Vizorek.
J'adore ça. Bonjour Charline Vanhoenacker.
Alors, qui vient s'asseoir à notre table aujourd'hui?
Alors, dans mon petit panier chroniqueur, j'ai du Hippolyte Girardot qui, avec un peu de retard, viendra nous narrer un conte de Noël. Bien sûr, Guillaume Meurice. Il s'était rendu à l'Union Nationale des Huissiers. Merveilleux terrain de jeu pour lui. Et enfin, André Manoukian qui a expliqué à Jean-Michel Jarre qu'il était un peu un bidouilleur. Il y aura aussi des sketchs, notamment Henri Guibé en Rabbi Jacqueline. Et on terminera, comme toute cette semaine, avec un Frédéric Fromm.
Allez les amis, c'est parti!
Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout.
Mais qui êtes-vous alors? Charmant inconnu dans ce studio.
Alors voilà, bah, je suis Henri Guibé.
Ah, mais voilà!
Bravo.
Parce qu'il ressemble vachement.
Et on dit bon anniversaire.
Bon anniversaire Henri Guibé.
Ça s'écrit comme le comédien, du reste.
Je rappelle que c'était son anniversaire hier et que le mien, c'est aujourd'hui.
C'est un nom d'origine normande, Guibé. Alors, à l'origine, ça s'écrit G-U-I-B-E, accent aigu. Et c'est d'origine normande. Et en patois normand, ça voulait dire petit moucheron. Oh. C'est pour vous dire si j'ai du sang bleu.
Vous êtes normand?
Pas du tout. Oh non.
Alors ça va.
Juif, ça suffit.
Henri Guibé, merci d'être avec nous. Mais donc vous avez fêté vos 80 ans hier. On peut le dire.
C'est trop tard.
Hein,
à l'anniversaire,
fêté...
hier.
Mais oui, hier.
Bah oui, fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Hein.
Et Samir Boisdi, c'est aujourd'hui, donc deux raisons de déboucher une bouteille. Alors, Henri Guibé, le comédien ne prend jamais sa retraite. Ça, c'est un beau métier où on ne prend pas sa retraite.
On n'a pas les moyens.
Donc, vous n'avez pas de tournant à gérer, j'imagine. Vous faites ce que vous aimez au rythme qui vous convient. Et là, ce que vous aimez, c'est jouer dans, par exemple, Que la meilleure gagne, une comédie.
Oui, alors ça, c'est une comédie que j'ai co-écrite avec un auteur qui s'appelle Bruno Druard. Pardon. Mm-hmm. Et comme il s'était cassé le pied, il m'a demandé que je collabore à son écriture. Je ne sais pas qu'il écrivait comme un pied, hein, non, loin de la réalité. Mais enfin, bon, il m'a dit, est-ce que tu peux me dépanner? Donc, j'ai coécrit, j'ai réécrit tous les dialogues, et j'ai un petit peu reconstruit tout ça. Alors, donc, c'est pour jouer avec Laurence Badi.
Oui, du théâtre de boulevard, donc c'est ce que...
Oui, mais alors, Laurence Badi, je l'ai connu très longtemps avant, ensemble, remontant les siècles, je l'ai connu chez Jean Villard au Théâtre National Populaire, où c'est là que j'ai fait mes débuts, en fin de compte. Je jouais dans Antigone de Sophocle, dans La Paix d'Aristophane, enfin des pièces...
Et à un moment, ça a ripé, parce que...
On cherche pas tellement les comiques. La résistible ascension d'Arturo Vi, ça a été mon époque brechtienne. Ouais. Enfin, non, j'ai travaillé là-dedans à peu près 2 ans et demi, et puis après, bon, j'ai été happé...
Le cinéma qui vous a donné beaucoup, beaucoup de rôles comiques, mais aussi ce rôle avec Alain Delon, bien sûr. Hein,
oui.
Flix Story.
Mais c'était une rencontre très agréable, celle d'Alain Delon. Parce que...
Lui aussi était ravi de se rencontrer.
Les 3 premiers jours, Alain ne m'a pas dit un mot. Ah. Alors que je faisais son copain, je le tutoyais dans le rôle, et il me disait bonjour monsieur, au revoir monsieur, c'est tout. C'était un petit peu, j'étais sûr que ça fait un peu dur.
C'est intense, Henri Guibé.
Et puis le 3e jour, j'arrive au studio, il m'embrasse. Il dit Henri, comment vas-tu? Je l'ai regardé un peu, j'ai dit, t'as vu les roches? Et dès ce jour-là, on est devenus copains, ça a été très agréable.
Et l'année prochaine, Henri Guibé, vous avez un autre projet, une pièce de théâtre en 2017 qui aura pour thème le mariage pour tous.
C'est ça, le mariage pour tous, parce qu'on a dit tellement de bêtises sur ce truc-là, et sur les enfants, le malheur des enfants, alors que depuis des siècles, on a fait souffrir les gosses de toutes sortes de façons. Le nombre de princesses qui ont été vendues à des rois pour éviter des guerres qu'on a fini par faire un jour ou l'autre. Donc, ça m'a amusé de reprendre ça. Et là, j'ai imaginé 2 pépés de 70 ans, 2 petits retraités qui décident de se marier. Parce qu'ils se sont aperçus que 2 petites retraites ensemble, ils s'en sortiraient mieux. Ils ont besoin d'un seul appartement. Ils ont loué un autre en location, ce qui leur donne un complément. Et puis ils se sont aperçus quand même que pour regarder un match de foot à la télé, c'était plus marrant à deux que tout seul. Donc ils se marient. Mais leurs enfants sont persuadés qu'ils sont passés du côté de la jaquette dorée. Alors, ils sont mal fous à leur expliquer que c'est pas du tout ça, le problème n'est pas là. Alors là-dessus, après, s'enchaîne, l'imbroglio de toutes les comédies, parce que il faut des rebondissements.
C'est vous qui avez écrit?
Oui, ça, entièrement.
C'est pas de Aristophane, ça, non?
Hein?
C'est pas Aristophane.
Non, quoique Aristophane a fait des pièces très drôles.
Sophocle, c'était plutôt Sophocle.
Aristophane avait quand même réussi à écrire une pièce pour empêcher les hommes de faire la guerre.
Ah bon?
Et c'était une méthode sensationnelle.
C'était Lysistrata, non?
C'est Lysistrata.
France Culture, bonjour.
Les femmes faisaient la grève de l'amour si le mec voulait aller à la guerre. Le gars veut partir? Pas ce soir. Alors, où tu vas pas à la guerre? Maintenant, on peut plus, les femmes font la guerre aussi, alors donc c'est incroyable. Le mec, il peut pas emmener sa femme.
Henri Guibé est avec nous. Henri Guibé qui dit l'humour, c'est le fusil de l'homme honnête. C'est une très jolie phrase de vous.
Ah oui, j'ai dit ça, j'ai dit des
Oui, mais vous dites pas que. Vous dites pas de conneries, vous, Henri Guibé.
I'm
j'adore Vodou Game.
Bien sûr.
Et en plus, ça s'appelle Elle décide.
Oui. Les femmes qui décident. J'en ai ma claque, moi.
Vous êtes sur France Inter. Vous ne vous êtes pas trompé. Et ça tombe bien parce qu'il y a Henri Guibé qui est avec nous. Henri Guibé, on va passer au premier sujet pour avoir votre regard sur ce qui nous tombe dessus en ce moment. C'est la route solaire qui est inaugurée cet après-midi par Ségolène Royal. 1 kilomètre de panneaux photovoltaïques posés sur la route pour éviter d'empiéter sur les terres qui peuvent être cultivées. Eh bien, on les pose sur la route. Eh bien, sans cette transition énergétique, voilà ce qui nous attend, même si ce scénario, vous allez entendre, date un peu, il reste toutefois devant nous.
Demandez mes panneaux solaires, demandez mes panneaux solaires, demandez! Vous qui avez de l'argent, montez, venez m'acheter du soleil vert. Ici, on vend du soleil vert.
Ils vont manquer de soleil vert. Tas d'idiots, il y a eu des difficultés de transport. Cette foule peut faire une émeute, je sais. Quand vas-tu faire l'annonce?
Ici la police, ici la police. Nous vous demandons de vous disperser. Il n'y a plus de soleil vert, on a épuisé tous les stands.
Vous êtes une bande de menteurs.
Évacuez immédiatement le secteur.
Soleil vert, vous l'avez reconnu, Henri Guibé, sorti en 73. C'est l'année de Rabbi Jacob, 73.
Ah oui,
ah oui. Enfin,
à propos des routes solaires, là, oui. J'ai discuté de ça avec un ami gendarme. Mais est-ce qu'il m'ennuie avec ça, de l'électricité fabriquée par la route? Sur les routes, il y a tellement de chauffeurs qui sont déjà tellement allumés. Où allons-nous?
Mais le gendarme a de l'humour, bien sûr. Ça se passe à Tourouvre, au Perche, dans l'Orne, où on nous écoute certainement en longues ondes, on les salue. Henri Guibé, une route départementale qui produit de l'énergie. Donc, ça y est, est-ce que le monde est sauvé? C'est ça la modernité? Quand vous avez vu cette information, vous vous êtes dit, c'est quand même incroyable, on ne l'avait pas imaginé, on ne l'a pas vu venir. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je me suis réveillée avec cette info ce matin. Ouais. Je me suis dit, waouh! Mais oui, quelle bonne idée!
Oui, c'est une très bonne. Oui, pourquoi pas? Vous savez, la vie des hommes est faite d'une succession de bonnes idées comme ça. Vous vous rendez compte qu'au 19e siècle, on parlait déjà de pollution à Paris. La pollution, la ville était déjà polluée, non par les gaz toxiques, mais par le purin de cheval. Ça polluait la ville terriblement. Donc ils se sont dit, tiens, on va faire des voitures qui marchent au pétrole, ça polluera moins.
Bonne idée.
Est-ce qu'il y a eu de la circulation alternée des chevaux à l'époque?
Des chevaux blancs. Mais
c'est vrai qu'à chaque fois qu'on trouve un truc chouette, bon, 10-15 ans après, ah merde, on a des ennuis aussi avec ça. Ouais. Bon, c'est vrai, mais c'est bien, pourquoi pas. Moi, je préfère voir de l'électricité fabriquée sur les routes ou par des éoliennes que par du pétrole ou par de l'énergie nucléaire.
Oui, et puis la route, c'est déjà une cicatrice dans le paysage, donc autant ils foutent les éoliennes, les panneaux photovoltaïques.
Ne mettez pas une éolienne, mais de la route, parce que sinon c'est un
coup. Non, mais sur ce qu'on appelle la berne centrale. Alors, c'est peut-être du belge, ce que je viens de dire. La berne centrale.
C'est que belge.
On me comprend.
L'idée géniale était de la mettre en Normandie, parce que c'est vrai. Si ça marche là, les panneaux solaires, ça marchera partout, a priori.
C'est parce que c'est là qu'ils sont fabriqués, notamment, à Tourouvre, au Perche. Voilà. Alors sachez que c'est quand même 5 millions de subventions de la part de l'État et il y a polémique sur le rendement énergétique qui est assez incertain. Peut-être ça vaut quand même le coup de tenter. Enfin, soyons optimistes.
Ceci étant dit, rapidement, quelqu'un a dit c'est pas en améliorant la bougie qu'on a découvert l'électricité. Donc c'est très bien de se pencher là-dessus, mais je suis sûr qu'on peut encore chercher dans d'autres directions. Voilà.
Très bien. Oui. Vous avez 4 heures pour cette dissertation avec Henri Guibé. Ça me rappelle le film Le Pion.
Il y a un vieux truc, vous savez, tous les moulins qu'il y avait le long des rivières, tous ces petits moulins, ils fabriquent de l'électricité, si on veut, il suffit de mettre... et on pourrait fabriquer... Déjà, si un petit moulin d'une rivière fabriquait de l'électricité, rien que pour les maisons qui sont autour, ça éviterait pas mal de choses.
Mais Guillaume va aller voir EDF, je pense qu'il va faire.
Bien sûr,
mais non, ça marche
pas. Henri Guibet, président.
On va vous poser une question à Rabbi Jacob dans 3 minutes, mais d'abord, on va faire un petit devoir, on va aborder un troisième sujet. Qui sont ces gens qui postent des photos de ce qu'ils mangent? Ils sont peut-être moins perdus que ceux qui veulent donner une bonne image d'eux à partir de ce qu'ils cuisinent, donc des trucs irréprochable pour la santé, type brocoli cuit à l'eau de vitelle, car la bouffe, elle raconte notre société, notre vie, mais aussi nos envies.
Qu'est-ce que c'est le gigondin à ma façon?
Ah, c'est délicieux. Ce sont 2 cuisses de chevreuil, c'est pour 2. Ce sont 2 cuisses de chevreuil fermes et délicatement écartées, fourrées de crème épaisse. Mouillé de vin blanc chaud qui ruisselle sur les parties charnues de la bête. Et Elles sont fermement ligotées sur un lit de croissant.
Il est comment le croissant ?
Il est tendre. D'accord. Coriace, à la fois.
Oh. Et quand vous dites ligoté, il est ligoté, ligoté, il ne peut pas s'échapper.
Il est à ma botte, le croissant. Oh.
Chantal Lobby et Gérard Darmon dans La Cité de la Peur. C'est un article dans M, le magazine du Monde, qui s'intitule « Healthy, la mode du manger beau ». Car tout doit être beau en ce moment, Henri Guibet, tout doit être sain. Il faut manger des légumes et des graines et les photographier pour montrer qu'on est sain nous-mêmes. Henri Guibet, si, par exemple, si les gens, si ce qu'ils photographient, leur bouffe, c'est pour montrer qu'ils sont sains et montrer une image idéale d'eux, vous, c'est quoi votre plat idéal pour vous décrire, vous ?
Moi, je mange, je ne photographie pas. Hein, que...
mais ça, c'est, parce la, c'est froid.
J'appelle ça les obsédés de l'autophoto, c'est les obsédés du portable. Je vais vous dire, moi, j'en ai vu un une fois, il est en train de se photographier en train de faire pipi. Alors donc...
Oh, Hippolyte, enfin.
Alors j'ai pensé pendant un moment, je me disais, il est peut-être trop gros du ventre, ce qui fait qu'il ne voit plus son affaire. Voilà. Et alors, c'était une façon de voir si elle était toujours là, présente. Si, ou au tout du moins en bonne santé. Mais enfin, maintenant, tout le monde se photographie. Elles ont même des grandes perches pour se photographier comme ça. C'est hallucinant. C'est un monde de fou.
Oui, oui, on est dans un monde de fou.
C'est terrible. Ils ne se parlent plus. Côté, là, ils se téléphonent. Alors, chacun téléphone à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai vu une époque où c'est formidable pour parler à une fille. Avant de lui parler, on lui écrivait des lettres. Oh, les lettres d'amour.
Oh là là, mais quelle perte de temps.
Mais voilà. Mais en plus de ça, t'as raison. On pouvait pas y aller du premier coup au truc. Ah, c'est que la dame nous faisait tourner longtemps autour du pot, si on peut le lire.
Henri Guibet qui dit autophoto pour selfie, j'adore. Et c'est là qu'on en vient à la question, parce qu'on a bien compris que vous aviez un regard amusé comme nous sur ces gens qui photographient leur bouffe avant de la manger. Henri Guibet, il va y avoir une suite à Rabbi Jacob, paraît-il, Rabbi Jacqueline.
Oui, on m'a dit ça.
Oui. Est-ce que vous avez été contacté ?
Non. On m'a demandé ce que je pensais du film. Alors, j'en ai parlé de celui que je connaissais.
Ah oui, évidemment.
J'ai encore vu l'autre. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On n'en a pas parlé. J'étais interviewé du reste là-dessus. Mais non.
Pour l'instant, pas. Alors, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de fil quand même. En tout cas, nous, si jamais vous n'étiez pas appelé, nous, on a un rôle pour vous. N'est-ce pas, Alex ?
Oui, Guillaume va partager son texte avec Henri Guibet, si ça ne le dérange pas.
Pas de problème.
Parce que nous avons la bande-annonce du film.
Henri Guibet, c'est moi.
HG, voilà. C'est vous. Henri Guibet. On y va. Parce que nous, on s'est dit qu'il fallait voir ce que ça pouvait donner. En 2018, ils reviennent. Victorine Pivert et son chauffeur Salomon sont en route vers Béziers.
Comment ? Vous n'êtes pas au FN ?
Bah non, ma tante Jacqueline qui arrive de New York, elle est rabbinette.
Mais alors elle est rabbine ?
C'est ça.
Bon bah tant qu'elle n'est pas juive...
En 45 ans, ça n'a pas beaucoup progressé. Hein.
Et sur la route, il croise un certain Slimane.
Excusez-moi, j'ai été expulsé de Béziers.
Qu'est-ce que vous faites là, vous ?
C'est marrant, Robert Ménard m'a posé la même question.
Montez avec nous, Rabbi Jacqueline va vous arranger ça.
Mais qu'est-ce qu'elle va faire ? Ah, elle va construire un mur autour de Béziers ?
Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, car Rabbi Jacqueline doit retrouver toute la fine équipe.
Bonjour ma fille !
Mais pourquoi elle m'appelle comme ça ?
Ah, faites-lui plaisir.
Ah non, je déteste le gefühltefisch. Hein.
S'il vous plaît, faites-les pour moi.
Non mais ça c'est la meilleure, alors je vais me faire passer pour une juive pour sauver un arabe.
Allez,
bah, allez, très bien, j'y suis, Rabbi Jacqueline !
Ah, Rabbi Jacqueline, il va danser.
Hein ? Mais non, je sais pas faire ça, moi. J'ai pas couché avec Kamel Wally, moi.
C'est facile. Imaginez-vous que vous participez à l'émission Danse avec les Ashkenazes.
Oui, c'est très facile. Imaginez que vous nettoyez les carreaux en dansant des os.
Ah, mon Dieu, mon Dieu.
Yabé vous regarde.
Venez voir les nouvelles aventures de Jabir Jacqueline, de Slimane, de Salomon et de Robert Ménard.
Mais je rêve. Les Juifs et les Arabes t'entendent dans ma ville.
Et je souhaite me marier avec l'Arabé.
Ouais, très bien. S'il lui faut des papiers, je le fais.
Et moi, je serai témoin.
Ah non, si on m'oblige à marier Slimane et une rabbie, je suis dans un cauchemar, c'est pas possible.
Mais non, Robert, tu es dans les nouvelles aventures de Rabbi Jacqueline.
Vous êtes sur France Inter, si vous nous rejoignez. Et vous arrivez à un moment qui est particulier, qui s'appelle le moment Meurice.
Souvent, on me dit, dis donc, t'as pas un métier facile. Tu dois te farcir les meetings de François Fillon, les chroniques de Clara Dupont-Moneau. Alors, ce à quoi je réponds immédiatement, je suis pas d'accord. C'est une personne brillante, voilà, qui a tout de même été Premier ministre de la France. Et puis, je réponds surtout qu'il y a pire comme métier que le mien. Il y a, par exemple, huissier de justice. C'est bien pourri comme métier. J'ai regardé dans la liste des métiers les plus détestés. Ça arrive juste au-dessus d'égorgeur de chatons et d'attaché de presse de Michel Fourniret. C'est quand même pas terrible. Et moi, ça me rend triste. Moi, ça me rend triste. Je veux rendre sa dignité à ce beau métier d'huissier. Alors, je me suis rendu au grand congrès des huissiers de justice ce matin.
La chance.
Il avait lieu dans un palace parisien. Voilà. Quand même, hein, c'est des huissiers, le Westin. Et j'ai interrogé des huissiers épanouis.
Je suis bien dans ma profession. J'essaie de l'exercer de façon saine et comment dirais-je, joyeuse, si on peut dire comme ça. Je vais vous faire un aveu. Les gens sont parfois contents de venir chez moi. Même s'ils doivent de l'argent, j'essaie de leur faire un bon accueil. Voilà,
ils sont contents quand vous allez chez eux.
Pas forcément, mais il y a une façon d'approcher les gens qui fait que, ben, écoutez, voilà, c'est moins désagréable avec le sourire et la politesse aussi.
Une bonne saisie avec le sourire, ça fait plaisir.
Mais pourquoi pas,
mais bien sûr, attends, mais c'est vrai. Puis des meubles, c'est chiant, faut le dire. Quand tu te cognes l'orteil là, sur le pied de la commode, c'est terrible ça. Et ben, avec l'huissier, t'as plus de commode. Voilà, ben, faut voir le bon côté des choses à un moment donné. Il faut relativiser les saisies d'huissier.
La saisie, c'est sur le papier. Hein. Je veux dire,
c'est sur le terrain aussi, parfois un peu.
Oui, mais bon, c'est... Et puis on va chez les gens, ça peut se faire sur rendez-vous, c'est pas forcément, ça peut être des témoins.
Il y a des saisies cool.
Oui.
Ouais, mais attendez, évidemment, on n'est pas bien là, à la cool, là, à regarder les déménageurs galérer avec le canapé qui passe pas dans la porte. C'est marrant, voilà, on se marre. Attends, franchement, ça va. Faut pas croire qu'un huissier, c'est un méchant. Hein.
On les aide sur la saisie par rapport à leur budget. Et puis si les gens n'ont rien... Ils touchent le RSA, comme on dit, on tombe pas un œuf. Voilà.
En quoi ?
On ne tombe pas un œuf.
Ah, on ne tombe pas un œuf. Ah, alors, c'est ouais, c'est bien, hein, c'est beau, c'est une belle métaphore d'huissier. Alors, des fois, l'œuf, on le casse. Ça arrive, bon, bah, il pète. Là, on fait une omelette parce que ça se fait dans la détente et puis on est cool. Voilà, on est bien. Un huissier, c'est pas, on va dans une baraque de quelqu'un qui a plus d'argent et on le fout dehors. C'est pas ça, un huissier.
Ah, croyez-moi, si c'était aussi simple que ça, ça se saurait. Et. Par définition, quand on est pauvre, on ne peut rien donner et donc il n'y a pas à recouvrer d'argent sur quelqu'un qui est dans une situation difficile économiquement.
Et par exemple, des fois, il lui reste plus que sa maison.
Ah, s'il lui reste sa maison, il est plus pauvre du coup.
Ah bah oui, c'est vrai, je suis con. Ah oui. Ah oui, non mais c'est pas bête, hein. C'est de la logique d'huissier là. Non. Par contre, si on lui prend sa maison, du coup, il devient pauvre.
Ah oui, c'est bien.
Ah bah il a qu'à aller sous un pont, au moins, il y a pas un huissier qui va lui prendre son pont. Hein, ils font pas les ponts, sauf entre deux jours fériés. Excellent. C'est de l'humour d'huissier, ça va, on rigole.
Moi, j'ai aimé.
C'est aussi ça, être un huissier.
On s'amuse. Ouais, mais dans toutes les professions qu'on aime, on éprouve des plaisirs. Quel bonheur d'aller faire une expulsion et en arrivant sur les lieux, de s'apercevoir que les gens sont partis et ainsi de ne pas avoir été obligé d'employer la force. Quel bonheur. Une décision judiciaire, ça doit être exécutée.
Ça vous rend heureux?
Ah, bien évidemment.
Mais justement, mais oui, c'est encore mieux si les gens se barrent avant. Parce que sinon, c'est pénible, on sait ce que c'est. Voilà. Vous savez comment ils sont, les pauvres. Hein. Ils ont rien, mais dès qu'on leur prend, ils gueulent. Quoi. Ils sont toujours à chialer. Oh là là, laissez-moi le sac Lidl, s'il vous plaît, j'en ai besoin. C'est pénible. Oh là là. Et puis, un bon huissier de justice, c'est pas un être insensible non plus, sordide. Faut arrêter avec les clichés.
Vous savez, les images de Daumier, la caricature, le vieux bonhomme avec les cheveux, la main à l'arrêt au milieu, et puis très austère. C'est fini maintenant. Maintenant, l'huissier doit s'intégrer dans la vie sociale des gens, employer un langage qui correspond au milieu social qu'il rencontre.
Est-ce que l'huissier a du swag ?
Quoi ?
Est-ce que l'huissier a du swag ?
Du swag, c'est quoi ça ? Moi, je parle français.
Oui, alors, faut juste qu'il s'adapte un petit peu. Là, il n'est pas à la page, hein, parce que s'il va faire une saisie chez les fans de Kev Adams ou de Juppé, il va rien piger, le gars. Tiens, puisqu'on parle de jeunes, est-ce que huissier, c'est un rêve de gosse ?
Non, il n'y a pas de rêve de gosse.
Vous n'aviez pas les saisies de trousses de vos camarades ?
Non. Je suis ce qu'on dit, un pur produit de la méritocratie républicaine.
Mais oui, la République, dans ce qu'elle a de meilleur, l'élève peut dépasser le maître. Enfin bon, ça, c'est la théorie, hein, parce qu'en pratique, les pauvres peuvent toujours aller se faire mettre.
Et on poursuit cette émission avec Jean-Michel Jarre. Ce jour-là, j'étais absente.
Et oui.
Je vous ai laissé les clés.
Avec le beau gosse, Jean-Michel Jarre. J'étais fort déçu de ne pas vous voir.
C'est vrai, je vous ai écouté. Hein, je vous avais fait n'importe quoi, comme d'habitude.
C'était le programme.
C'est pour ça qu'on l'a remis, là. On va le réécouter.
Vous êtes là pour l'album Oxygène 3. Et je vous le disais en arrivant à Bruxelles, dans ma génération, les gens qui mettaient autant de monde dans les stades, c'était Mylène Farmer et vous. Vous êtes la méga star de notre génération. Et là, c'est toujours Oxygène. Il y a eu Oxygène 1, puis vous êtes dit il y a eu Oxygène 2, il y a Oxygène 3. Est-ce que c'est une...
Comme camping. Voilà. Du bosque, de
mais
la
pas que camping. Oui. La comédie humaine aussi.
Ah, pas
plusieurs.
Mal.
Pas
et,
mal,
et,
hein.
Les parents, et les
parents. Non, non. C'est pourquoi je dis ça, la comédie humaine, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de. Moi, j'adore les séries à la télé. J'adore la série dans la littérature, dans le cinéma, même si elles sont pas toutes réussies. Mais dans la musique, il y en a très peu. Et Oxygène, au départ, c'est un seul morceau au fond avec des chapitres. Il y a pas de nom. D'ailleurs, c'est comme ça que ça a été refusé pratiquement par toutes les maisons de disques. Parce qu'on m'a dit, il y a pas de chanteur, il y a pas de justement,
il y a pas de parole,
il y a pas de, il y a pas de batteur, il y a des morceaux de 10 minutes qui penseront jamais à la radio. Et en plus, dans les pays anglo-saxons, en plus, il est français. Donc, mais en fait, cette idée-là, depuis le départ, je me suis dit, tiens, ce serait amusant dans le temps de faire comme ça des séries, de prendre les sons et puis un peu comme on prend des acteurs dans une série, de les mettre dans un autre contexte, dans une autre histoire. C'est un peu Oxygène 3, c'est un peu ça.
Que ce serait une œuvre inachevée quand vous l'avez commencé?
Non, mais dès le départ, je me suis dit, tiens, ça serait amusant de faire de continuer l'histoire dès le départ quand je l'ai faite, oui. Et puis après, j'ai mis quand même du temps quand même à le faire.
Je suis
même
un peu une truffe en musique, donc en quoi...
Non,
si, André confirme, il le sait. Donc je vais poser une question, peut-être que pas mal de truffes en musique se posent.
Personne n'a dit non, enfin, en tout cas.
Non, tout le monde est OK avec ça. Il en faut un autour de la table. Comment la musique électronique, elle a évolué depuis ce premier Oxygène, et en quoi, aujourd'hui, c'est une suite naturelle, presque?
Et bon, je peux lui répondre?
Vas-y.
Vous pouvez rentrer du coup, Jean-Michel.
tu sais pourquoi elle a évolué, la musique d'Oxygène 3? C'est qu'en fait, lui, il a pas bougé. Et ça, c'est le concept bouddhiste. Si tu tournes dans un hamster, en fait, le cycle y revient. La grande classe de Jean-Michel Jarre, c'est que la cage du hamster qui court.
Tourner dans un hamster, bien sûr, tout le monde.
C'est pas l'intérieur du hamster.
Oui, c'est que.
J'arrive pas à avoir l'image.
C'est que lui, il a pas bougé d'un iota. Et qu'il est devenu culte et qu'il est devenu le maître de toute la génération des jeunes électro sans bouger. S'il avait bougé et couru un petit peu après la mode, je veux dire...
Non mais il y a un côté...
Quand
il
y a une histoire de culte, tout ça.
Non mais il y a un côté, éloge de la patience. À une époque où tout est tout de suite transformé, il faut que toujours tout soit nouveau et inédit en permanence. Là, il y a quelque chose qui court sur combien de temps? C'était quand le premier Oxygène? Voilà, 40 ans.
Non mais je crois qu'en fait, il y a une confusion... À la fois pour déconner, à la fois sérieusement. C'est qu'en fait, je pense qu'on attend toujours des artistes qui se renouvellent. Et en fait, on ne se renouvelle pas, les artistes ne se renouvellent pas. Ils vous disent toujours la même chose. Vous prenez les Beatles, vous prenez Tarantino, ils vous racontent toujours la même chose. C'est un style qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on rejette ou qu'on rejette pas.
Tout comme Flaubert a toujours écrit le même livre.
Exactement. Et comme Fellini le disait, d'ailleurs, j'ai toujours, à la fin de sa vie, il pensait toute sa vie qu'il allait faire des films différents, mais en fait, finalement, il a cessé de faire le même film. Et je pense que la création, c'est ça, cette espèce d'addiction, cette espèce d'obsession d'un jour de faire le morceau idéal ou le livre idéal ou le film idéal qu'on fera sans doute jamais. C'est comme une savonnette qu'on essaie d'attraper, mais on essaie de s'en rapprocher. Donc, je pense que j'ai encore du chemin à faire, donc c'est pour ça que je m'accroche.
On essaye l'émission idéale, mais on n'y arrive pas. Ça fait 2 ans et demi.
C'est la même chose.
On n'y arrivera jamais.
On commence tous les jours. Oui, c'est ça.
André, attention, vous avez senti que ça allait être.
Quelle divinité convoquée pour parler de notre invité Jean-Michel Jarre. Moi qui dis cosmique à tout bout de champ, me voilà bien avec l'inventeur de la planerie spatiale, le pape des ondes électroacoustiques, l'héritier de Pierre Schaeffer, un ancien de Radio France qui inventa le genre en bidouillant avec des magnétos. Eh bien, bidouiller, c'est le maître mot du travail de notre maître claviériste, bidouilleur cosmique, l'art de la bidouille, l'art du bricolage. Ah, le mot peut vous sembler péjoratif. Un bricoleur, c'est un amateur qui démonte ses bécanes dans son garage le dimanche. Non, moi je vous parle du bricolage en tant que concept philosophique. Vous tapez bricolage dans un dico anglais et vous tombez sur quoi? French Concept of Gilles Deleuze. Mais
oh,
oui,
mais ah,
oui,
il est revenu.
Mais oui, mais
il est là, Gilou.
Voilà ce qu'il nous dit, Gilou. Créer est un acte de croisement, une trame et un drame. Le bricolage mélange les registres et les formes. Le braconnage est une figure d'une vie non mutilée et non exclusive. Une figure de vie non mutilée, ça veut dire qu'on échappe à l'exclusivité d'un genre. Ça veut dire que la vie naît de la déterritorialisation d'un art.
Mais bien sûr, on l'a dit tous les jours, André, les gens ne nous écoutent pas.
C'est sortir du contexte, c'est mélanger, c'est bâtardiser.
Tout ça pour Monsieur Bricolage.
Le chant. Elle comprend rien.
Le chant. Moi, je comprends tout et je trouve ça très, très bien.
Merci, Jean-Michel. Le chant de jeu d'un synthé, chant CHAMP. Ça n'est pas le clavier, c'est la partie supérieure, le tableau des potentiomètres qui règle les filtres, les fréquences d'oscillation. Écoutez ces mots, écoutez Juliette. VCO, Voltage Control Oscillateur, VCF, Voltage Control Frequency, ADSR, Attack, Decay, Sustain, Release. Ça sonne super cool, hein. Allez, laissez-nous ça, c'est notre charabia ésotérique à nous les musiciens, nous les saltimbanques. Ça fait un peu jargon de savant, on n'est pas tout à fait des savants. Mais on aime bien frimer les jeunes filles en pamoison qui nous font des réflexions du style « Vous en sortez avec tous ces boutons ?» Ou alors, on dirait un tableau de bord d'avion. Mais non, on ne cède jamais à cette facilité, hein, Jean-Michel. Pour la simple raison que dès qu'on pose un doigt sur le clavier et qu'avec les autres doigts, on tourne les potards les uns après les autres, eh ben, on décolle. C'est là qu'il se fait le boulot. En tripotant la texture du son, en jouant avec les filtres, les enveloppes. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on se trouve en face d'un instrument qui transforme une énergie pure et désincarnée en enveloppe sonore. À part mettre les doigts dans la prise, on n'a aucun ressenti organique de l'électricité, sauf quand on bidouille un synthé. Jean-Michel Jarre fut le premier à rendre cet instrument un peu bricolo, populaire. Sa rhétorique harmonique est simple, souvent des triades. Non, pas la mafia chinoise, Clara, des accords à trois sons qu'on appelle aussi accords parfaits. Oui, parce que frimer en jouant des extensions harmoniques, c'est bien chouette, mais produire avec peu, c'est beaucoup plus compliqué. Et là encore, Gilles Deleuze est le master, avec son animal préféré, la tique, dans le milliard d'informations que nous donne la nature. La tique, animal préféré de Gilles D, n'en sélectionne que trois pour faire sa vie, la lumière pour aller au bout de la branche, l'odeur pour sentir l'animal et se laisser tomber, la chaleur pour lui pomper le sang. Produire, et Gilles dit, avec ces trois informations, elle fait son monde. Il y a tellement de gens qui n'ont pas de monde. Produire un monde, ça n'est pas donné à tout le monde. Aller à l'essentiel avec des accords parfaits, c'est compliqué. Quand il a fait Oxygène, Jean-Michel Jarre, il avait qu'un 8 pistes à bande. Quand aujourd'hui, le moindre laptop vous met à votre disposition 200 pistes et des milliers de sons. Alors prenons une pause et par les temps qui courent, un peu d'air que diable, ça peut pas faire de mal. Ouvrez la fenêtre et faites entrer l'oxygène, bordel! Le truc, c'est qu'avec un accord parfait à trois sons, tout d'un coup, quand on met une septième, c'est-à-dire une petite, elle vous explose à la figure. C'est comme un contraste de couleurs, voyez-vous.
Et je me demandais, vous qui avez joué dans le monde entier, si encore un lieu où vous aimeriez jouer.
Chez Manoukian.
Ouais. Dans son jardin. Il y a plein de jeunes chanteuses qui répondent ça aussi. Et merci.
Bah, j'ai un côté jeune chanteuse.
Mais si oui, mais c'est pour ça, je le voyais. Midinette. Vous nous avez dit, les trois sujets me plaisent, donc on se lance directement dans le premier. Donald Trump se fait plaisir, c'est bon, il a gagné, il peut y aller. Alors il inquiète un peu le monde, il inquiète un peu les États-Unis, mais lui il s'en fiche, il crée son gouvernement, casting parfait, déjà deux militaires, Mike Flynn à la sécurité, surnommé le plus en colère des généraux, et James Mattis à la défense, surnommé l'enragé. Aux têtes, ça va filer droit.
Si vous survivez à mon instruction, vous deviendrez une arme, un prêtre de la mort implorant la guerre. En attendant, vous n'êtes rien. Du branlement végétatif, de la merde, de la chiasse, du vomi. c'est clair. Ils me haïssent.
Benoît Poulvord, Monsieur Manhattan. Alors Jean-Michel Jarre, vous allez très prochainement aux États-Unis pour une bonne raison. Vous êtes nommé au Grammy Award 2017 avec Electronica 1, votre album précédent. C'est un pays que vous connaissez bien. De quel œil vous voyez l'arrivée de Trump et ses petits préparatifs?
L'avantage de Trump, c'est qu'au moins, à la différence d'autres présidents, c'est qu'il avance démasqué. Donc d'une certaine manière, c'est finalement plutôt bon signe. Il a un peu le côté Docteur Folamour.
Ce qui est toujours rassurant.
Ce qui est toujours rassurant, parce qu'il y a un côté comique. Oui. Et on aurait dû se méfier avec le prénom qu'il a, oui. qu'on allait tomber dans le dessin animé. Le seul fait, c'est que le dessin animé en général est en couleur. Mm. Et que là, ça risque d'être en noir, avec beaucoup de noir et blanc, mais beaucoup de noir.
Surtout. Et que j'allais dire, vous...
Et l'avantage, c'était un petit tacle pour Obama avec Snowden, ou pas du tout?
Non. Alors, on s'est dit avant l'émission, on ne touche pas aux maires et on ne touche pas aux lanceurs d'alerte. Si vous montez sur Snowden, je serais sérieux juste pendant 3 minutes.
Mais on attend de on vous ça pour le deuxième sujet. Mais vous qui connaissez bien les Américains, vous l'aviez vu arriver, cette tempête Trump, cette affection pour ce genre de personnage?
C'est pas l'affection de gens, je pense pas qu'on ait, encore une fois, on se trompe, je pense pas que les gens ont voté pour Trump, ils ont voté, on sait très bien, contre l'establishment et contre, il y a un rejet mondial de toutes les élites politiques, on s'en rend compte en France, on s'en rend compte partout, on s'en rend compte avec le Brexit, on voit que finalement, et les médias, et les études d'opinion se plantent semaine après semaine.
Enfin, les électeurs aussi, parce qu'il y a pas plus les deux pieds dans l'establishment que Trump.
Oui, non, mais bien sûr. Non, mais comme le Brexit. Le Brexit a été le Brexit finalement, je pense moi personnellement que ça sera sans doute une bonne chose pour le Royaume-Uni. Je pense pas du tout que ça va être une mauvaise chose. Je pense qu'ils vont prendre une Europe à la carte, ce qu'ils font d'ailleurs depuis 1000 ans. C'est pas nouveau.
Vous croyez qu'ils nous la mettent à l'envers?
Oui, totalement, totalement. Mais que les raisons pour lesquelles ils ont voté le Brexit sont mauvaises. C'est les mêmes réactions, côté frileux, réac, etc.
Ça vous angoisserait pour nous d'ici mai?
Non, je pense pas. Moi, je suis pas du tout, angoissé. De toute façon, je pense que on est dans un tel bordel, on surnage de toute façon nous en France. Hein, on traverse finalement. C'était un Anglais qui me disait finalement, vous n'avez jamais eu de management à la tête du pays. Vous êtes un pays tellement gâté. C'est vrai, on s'en rend pas compte, mais quand on voyage, on s'en rend un peu plus compte. C'est-à-dire qu'on a à la fois l'industrie, le tourisme, la mer, l'océan, la montagne, etc. Merci beaucoup. et en fait, on est le pays le plus gâté d'Europe. Donc quoi qu'il arrive, même si on a le président qu'on a eu ces 5 dernières années, on arrive quand même toujours un peu à s'en sortir. Enfin, ça va devenir de plus en plus dur vu le panorama qu'on nous offre aujourd'hui. Moi, ça me fait pas tellement bander.
Mais c'est important de le rappeler, je pense, que parfois on est bien chez nous. Sujet 2, sujet sérieux, parce que vous avez dit, là, je vais être sérieux, nous allons parler d'Edward Snowden, ce lanceur d'alerte qui n'est pas dans les bons papiers de la NSA et des services secrets britanniques. En ce moment, on continue à trier ces révélations et notamment des nouvelles écoutes téléphoniques.
L'autre fois, je me faisais la réflexion, peut-être que l'État surveille ma connexion Internet, finalement. C'est peut-être l'autre fois, là, chercher des vidéos d'attentats de chats djihadistes. Peut-être que je suis allé sur des sites, ça a déclenché une alerte et je me suis fait tracer. Bah, c'est peut-être à cause de l'autre fois, sinon. Ouais. Un pote qui me dit qu'il a acheté dans une brocante un vieux Strange et un exemplaire de Mein Kampf. Je rentre chez moi, je pose le blouson, je jette les clés de moto et je jette machinalement Mein Kampf sur la table de nuit.
Hein, c'est quoi comme moto?
Une Godwin.
Mosinor, le collectif qui fait du doublage. Jean-Michel Jarre, c'est vraiment un être qui vous tient à cœur pour son combat, Edward Snowden.
Ah oui, à tel point que j'ai fait un morceau avec lui dans Electronica. Et en fait, c'est étrange, parce que quand j'ai entendu parler de lui la première fois, bizarrement, il m'a fait penser à ma mère, qui était une grande résistante pour la guerre et qui s'est engagée dès 41. Et j'ai été élevé avec cette idée que quand un État génère des idées ou des actes qui sont contraires à ce que nous sommes, ce que nous pensons, et ce qui peuvent faire du mal à notre communauté, un certain nombre de gens doivent résister. Et qu'au fond, tous les progrès sociaux, depuis l'abolition de l'esclavage, la prohibition, le droit de vote des femmes, a toujours été fait contre la loi et contre le pouvoir en place. Le mariage pour tous, c'est la même chose. Et voilà un jeune gars que j'ai rencontré, j'ai eu envie de rencontrer. Je suis parti à Moscou, je l'ai vu et c'est un type formidable, très très sympa et qui a décidé, qui était un soldat, famille de soldats, qui s'est engagé pour défendre les valeurs de son pays et qui, plus il s'impliquait dans la CIA, dans la NSA, c'est un hacker génial, dont Oliver Stone d'ailleurs a fait un film récemment, plus il s'apercevait que ce qu'il faisait allait à l'encontre des raisons pour lesquelles il s'était engagé. Et finalement, il a décidé de cracher le morceau et de nous dire à tous qu'effectivement, la technologie, elle a deux côtés. Il y a un côté qui est sympa parce qu'on peut avoir le monde dans sa poche à travers son smartphone, mais aussi on est espionné par le monde entier. Et effectivement, il a fait ça pour améliorer son pays, pour améliorer le sort de chacun, pour nous informer. Et je pense qu'on a vraiment besoin de gens comme Edward Snowden, on a besoin de gens comme Wikileaks, comme Mediapart, comme tous les lanceurs d'alerte.
Il s'y attendait, vous qui l'avez rencontré, à avoir autant de gens contre lui.
Il savait. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que je lui ai dit, mais tu te rends compte que tu risques ta vie, tu risques de passer ta vie en prison.
Oui, c'est sacrifié pour un. Ouais, c'est une sorte de sacrifice.
Oui, mais de toute façon, si je me fais attraper, il y en aura un autre derrière qui le fera. C'est-à-dire que c'était vraiment, il a vraiment l'attitude du soldat. Ouais. C'est-à-dire de s'engager en se disant, je me sacrifie pour les valeurs de mon pays, de son pays dans lesquelles il croit, qui sont toutes les nôtres. Voilà, il faut continuer à en parler, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir pris 5 minutes pour en parler. On avait dit qu'on déconnait ni avec les maires, ni avec les lanceurs d'alerte. Merci de m'avoir.
Et vous avez réussi à placer votre maman et le lanceur d'alerte.
C'est
dans
exactement
le même sujet.
C'était quand même pas mal.
On peut passer. Et on salue les autres lanceurs d'alerte.
Et les autres mamans, également.
Parce qu'il y en a plein. Et les autres mamans.
Exactement. Troisième sujet, je l'attends avec impatience. Toute ma vie, j'ai rêvé de voir Mike Brandt sur scène. Je pensais que c'était foutu. Et maintenant, grâce à la technologie, je me suis trompé. Et je vais pouvoir voir en plus de Mike, quelle soirée, Clo-Clo, Dalida, Sacha Distel aussi, ça va être beau.
Je vais vous dire mon secret.
D'accord.
Je vois des gens qui sont morts.
En rêve, tu veux dire? Quand tu es éveillé. Tu vois des morts dans des tombes, des cercueils.
Non, ils vont et ils viennent comme n'importe qui. Ils ne se voient pas entre eux. Ils ne voient que ce qu'ils ont envie de voir. Ils ne savent pas qu'ils sont morts.
Le son et lumière, c'est vous quand on parle de ça,
quel
on pense
rapport
à vous. Parce que là, on va pouvoir revoir, grâce au son et à la lumière, Clo-Clo danser avec des Claudettes. Il y a des vraies, il y a des fausses. J'ai vu les premières images. Moi, je suis un peu comme un gamin, je trouve ça assez attirant. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que cette technologie vous amuse, vous intéresse, vous intrigue?
Je pense que c'est le fantasme absolu du showbiz qui a, pendant des années, essayé de ressusciter des vivants et qui maintenant va pouvoir ressusciter des morts. C'est quand même.
J'ai pas compris le coup de ressusciter.
Je ne peux pas le redire, mais ce sera moins drôle la deuxième fois.
C'était bien aimé parce qu'on a rien. Trainet a été oublié. Ouais,
il a bien aimé, il a compris.
Mais bien sûr, voilà. Mais pas moi.
Mais
je suis une truffe.
Non, mais c'est pas grave. Non, franchement. Non. Franchement, c'est pas grave.
Il y a un replay la nuit de l'émission. Voilà.
Sur Internet, la nuit, on peut écouter.
Mais c'est vrai qu'il y a autre chose, il y a une mise en scène, etc.
Au-delà de ça, c'est une chose qui intéresse énormément aussi le cinéma, puisqu'il y a des projets qui sont faits, on parle des chanteurs, mais il y a aussi des projets qui sont faits de faire tourner Brad Pitt avec Marilyn Monroe ou Angelina Jolie avec Marlon Brando, par exemple.
Vous, ça vous
donc ça existe déjà.
De voir arriver ça... Mozart à côté de vous
bon. Non, ça ne me ferait pas marrer.
Ça ne vous terrifie pas
Je trouve ça plutôt drôle. Je veux dire, pourquoi c'est terrifiant? Je pense que tout ça, c'est assez amusant. Ça dépend ce qu'on en fait, mais je trouve ça, a priori, plutôt drôle.
On envisage des contrats où les artistes sont OK pour se faire scanner, les comédiens, et à ce moment-là, on utilise leur image. Et du coup, le métier d'acteur pourrait presque dériver sur un droit à l'image qu'on céderait.
Oui, mais ça existe déjà. Quand on voit, par exemple, les films... les blockbusters avec Tom Cruise, etc., l'émission Impossible ou autre, on met souvent la tête de l'acteur sur des cascadeurs qu'on remet. C'est même déjà plus exactement lui.
Sauf qu'il n'y a pas l'idée de disparition. Là, c'est très étrange, cette société qui n'arrive pas finalement à se faire à l'idée de la mort et de la disparition.
C'est un peu la faute à Mpokora, ça, quand même. Si on a besoin d'aller rechercher Clo-Clo, non?
Je ne pense pas que ça vienne de ça. Je pense que c'est plutôt amusant de se dire... Bon, alors évidemment, il y a des gens qu'on n'a pas tellement envie de revoir. C'est le problème. C'est un problème subjectif.
Goebbels,
c'est vexant pour ceux qu'on n'a pas choisi, effectivement.
C'est exactement ça. Oui. Donc ça pose une vraie question.
Mais il y en a qui n'ont pas voulu, je sais. Il y en a qui attendent de voir la première mouture pour voir ce que ça va donner.
Jean-Michel Jarre. Le gros problème pour nous tous, les artistes vivants, c'est dans quelques décennies, de là, est-ce que nous serons choisis? C'est un vrai problème.
Vous pouvez aussi décider, j'imagine, de votre vivant en ayant une carte pour dire « moi, je ne veux pas ».
Oui, mais on peut changer d'avis après,
la fameuse carte.
Donc,
Eh bien, on verra bien. On verra bien. Et par contre, je vais vous donner l'occasion de votre vivant d'être quelqu'un d'autre. Parce qu'à la fin de l'émission, on propose un sketch à l'invité qu'il découvre. Et vous avez un rôle qu'à mon avis, vous avez toujours rêvé. C'est d'être Cahuzac. Jérôme Cahuzac. parce que là, il vient d'apprendre la nouvelle et ça lui fait pas vraiment plaisir. Mais son avocat est prêt. Son avocat a une petite stagiaire, Juliette Arnaud. Et ils vont essayer de trouver des solutions pour voir comment ça va tourner cette affaire.
Bon, la nouvelle vient de tomber.
Ils veulent vous condamner à 3 ans de prison.
Voilà, il faut faire quelque chose, hein, monsieur Cahuzac.
Bon, je sais, je vais... Qu'est-ce que je vais faire une annonce.
Quoi?
Je suis candidat à la primeur de la gauche.
Ah non, ils veulent vous mettre 5 ans d'inéligibilité, là, c'est pas possible. Hein.
Ah, parce que vous croyez vraiment que j'aurais été élu, alors.
Bon, allez, monsieur Cahuzac, organisons-nous, comment éviter cette peine?
Il a qu'à s'échapper.
Ah, si c'est une question d'évasion, ça me connaît.
Non, mais je parle surtout de rhétorique pour endormir les juges, quoi.
Ah, j'ai encore les 06 de quelques anesthésistes.
Non, il nous faut une défense solide.
La phobie administrative?
Non, et inédite.
On n'a qu'à dire que c'est la faute à quelqu'un d'autre.
Ça, c'est une bonne idée.
C'est la faute à Rocard.
Ah non, ça, j'ai déjà dit, il n'avait pas l'air convaincu.
Il faut faire mieux,
C'est la faute à Mitterrand.
C'est la faute à Jean Jaurès.
Si on évitait, par exemple, quelqu'un de mort.
Jean-Pierre Chevènement?
Ça, c'est un bon compromis.
Ah, mon Dieu, mais comment vous voulez convaincre les Français avec ça?
Ah, je sais! On n'a qu'à demander son extradition.
Ah oui, en Suisse?
Non.
À Singapour?
Non.
À
l'île de Man non plus, c'est pas possible. Non. Cherchons plutôt une circonstance atténuante, ça serait bien ça.
Et si il devenait de droite? Les gens pardonnent la faute fiscale ou la fraude fiscale aux gens de droite.
Bon, je vais faire une annonce.
Ok, quoi?
Je suis candidat à la mairie de Levallois-Perret.
Mais non, vous êtes inéligible en France, on a dit.
Non mais si j'avais su, j'avais ma chance aux élections américaines, non?
Et si il devenait footballeur? Les gens pardonnent la fraude fiscale dans le foot?
Non, Karim Benzema a montré l'exemple, ça convaincra plus.
Bon, je cale. J'ai besoin d'une bonne bouffée d'oxygène.
Attendez, j'ai la solution.
Oh là là, quoi encore?
Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, personne ne vous croira.
Oui, alors?
Il n'y a qu'une excuse que vous n'avez jamais utilisée, c'est le moment.
Vous êtes sûr?
De toute façon, dites-le, personne ne vous prendra au sérieux. Donc.
Ok, je plaide coupable.
On arrive tout doucement à la fin de l'émission, mais pour vous consoler, sachez que tous les jours, il y aura du Frédéric Fromet.
Il y a autant de bons Frédéric Fromet.
Ah oui, alors là, il n'y en a pas à acheter. Tout
bon,
est
allez,
bon.
Cerise sur le gâteau, on y va.
Bonsoir, voici une chanson en rapport avec l'événement de la semaine qui fait mal aux joues, le froid. Fait pas chaud ici, fait pas chaud là, il fait pas chaud à gagla, à gagla. Fait pas chaud ici, fait pas chaud là, mais qu'est-ce que c'est que cet hiver, il fait froid. Oulalala, 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 oulalala. Fait pas chaud, 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 fait pas chaud. On s'accaille, on s'accaille, on s'accaille, on s'accaille, on s'accaille, on s'accaille, on s'accaille. On est congelé au mois de janvier, il manquerait plus qu'on ait chaud en juillet. Heureusement, le gouvernement est là pour nous dire de porter des gants. Mettez un bonnet, fermez vos volets, faites-vous des bouillottes comme des mémés. Chaussez vos skis, vos après-ski, gare aux chamois, aux marmottes, aux yeti. Fait pas chaud ici, fait pas chaud là, il fait pas chaud à glagla, à glagla. Fait pas chaud ici, fait pas chaud là, même Véronique Courgeot n'aime pas. Oulalala, oulalala, oulalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
les glaçons, mettez deux caleçons. Il fait en dessous de 0 degré, on est complètement givré, même qu'on pourrait passer pour des petites bites, oui des petites bites auprès des Inuits. Fait pas chaud ici, fait pas chaud là, il fait pas chaud à gla gla, à gla gla. Fait pas chaud ici, fait pas chaud là, est-ce que le gel des salaires suffit pas? Oulala, 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 la 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 la. Fait pas chaud, fait pas chaud, fait pas chaud, fait pas chaud, fait pas chaud. Je me suis pas fait chier pour cette chanson. On se les pèle, 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 on se les pèle. Va-t-on manquer d'électricité? La production de con est assurée, car si tombe la neige, on a trouvé mieux. On parle d'un épisode neigeux et on crie au loup, on fait des igloos. On croise aussi des troupeaux de caribous. On est équipé pour les glaciers. On prend modèle sur Benjamin Piolet. Fait pas chaud ici, fait pas chaud là. Il fait pas chaud à gla gla, à gla gla. Fait pas chaud ici, fait pas chaud là. J'écris avec des mouflets, ça se voit. Fait pas chaud ici, fait pas chaud là. Vivement l'été qu'on se plaigne du sauna.
Merci. Eric Fromet. Voilà, on arrive déjà tout au bout du rouleau de cette émission.
Oui,
réalisée par Anne-Sophie Ladonne avec Kevin Pelot à la technique. Il y en aura une autre demain, je vous rassure, toute la semaine aussi.
Donnez-moi un peu le programme.
Eh bien, demain, on reçoit le rappeur Kerry James et puis on retrouve avec grand bonheur Louis Rego.
Kerry James featuring Louis Rego.
Louis Rego from the Tribunal of the Flag en délire. À demain.